Ondine Kayat, bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons parler de ce roman, Le Parfum d'Exil, que vous publiez aux éditions Charleston. Alors, pour commencer, je dirais que c'est un roman, mais c'est qu'un récit plutôt, hein, et qui prend racine dans vos racines familiales.
Oui, absolument. Je suis française, ma mère est française, j'ai un père qui a des origines libanaises et arméniennes, et je me suis inspirée pour ce roman d'une partie de mon histoire familiale. C'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune créatrice de parfums, Taline, qui, à la mort de sa grand-mère, découvre, puisque sa grand-mère lui a laissé ça avant de partir, elle découvre trois carnets et ces carnets la mènent sur le chemin de son histoire familiale. La mère de Nona est née dans l'Empire ottoman au début du XXe siècle et Taline va découvrir tout un pan de son histoire familiale.
C'est à la fois un secret de famille, puisque Taline n'a jamais vraiment entendu parler de cette histoire, et c'est un parcours d'odeur en même temps aussi, à travers des clés, des mots, des phrases plus exactement. Alors il y a une première énigme, si on peut dire, c'est là où s'épanouit le jasmin, se trouve la première clé. Cette odeur de jasmin, c'est aussi un souvenir en commun avec Taline et Nona.
Oui, Taline a vraiment été initiée au monde des odeurs par sa grand-mère Nona, et comme elle est extrêmement sensible, elle appréhende le monde beaucoup par ses sens, et le jasmin est la première odeur que sa grand-mère lui a fait découvrir. Donc c'est un roman vraiment qui porte une grande sensorialité, et c'était aussi une façon pour moi d'atténuer des scènes qui sont évidemment plus crues, plus difficiles, puisqu'elles évoquent la tragédie du génocide arménien. Donc il y a vraiment dans ce roman toute une dimension olfactive qui fait écho à l'extrême sensibilité de mon héroïne et qui va lui permettre de se construire, de découvrir pourquoi sa propre mère ne l'a pas aimée. Et c'est aussi parler de ces traumatismes qui se transmettent de génération en génération.
Nous allons partir et découvrir, je dirais de façon très, très intime, ce début du XXe siècle en Arménie. Il y a effectivement une sorte de toujours un peu de conflit, mais les gens vivent plus ou moins en bonne intelligence, et puis d'un seul coup, tout va éclater, et les personnages, que ce soit le personnage de Louise, Louise Kerlakian, et puis du grand-père aussi, et qui sont des personnages forts, et des personnages d'une... On aurait aimé les avoir comme grands-parents, et puis cette petite fille, cette petite Louise qui grandit avec bonheur dans un environnement qui est un environnement, là aussi, plein de parfums et plein d'amitié, plein d'amour.
Oui, c'est une manière pour moi de rendre hommage à nos aïeux, qui avaient une façon, quand on a eu la chance de les connaître, mais d'avoir une structure, une colonne vertébrale, une culture, une éducation, quelque chose qui faisait que c'est ce que ce grand-père est pour Louise, il est de l'engrais pour elle. Et c'est merveilleux parce que cette petite fille qui vit dans l'Empire ottoman, alors il y a des soubresauts, puisque ce génocide, il y a eu avant plusieurs phases, hein, mais il y a vraiment une liberté qui est laissée à sa sensibilité. Elle aime les mots, elle est poétesse, elle a du talent. On dirait aujourd'hui que c'est une hypersensible, Louise, donc elle appréhende aussi le monde par le biais de ses sens, et elle a la chance d'avoir un environnement qui favorise son développement. Et c'est, voilà, elle va être ensuite confrontée à la barbarie de l'histoire et au désherbant que représente cet événement tragique. Et c'est aussi toute l'histoire de ce par quoi elle passe qui est vraiment l'ampleur de cette tragédie. Et c'est aussi un roman qui parle du déclassement social, de la mémoire, de la perte de tous ses repères et de comment on se reconstruit, comment on devient mère quand la vie ne signifie plus rien pour vous. Donc c'est vraiment un roman qui traite de plusieurs thèmes avec un volet historique, mais des thèmes très actuels. Et j'ai vraiment voulu évoquer ces sujets-là pour que Taline, dans le monde d'aujourd'hui, puisse honorer la mémoire, clore un cycle et vivre sa propre vie.
Alors, ces trois carnets, ce sont en fait trois parcours, mais c'est aussi des parcours de vie. Nona, ces trois parcours, il y a l'enfance, il y a la partie génocide, il y a la partie ensuite, après sa vie de femme, où elle tente de se reconstruire, et puis peut-être d'oublier justement le fait qu'elle n'ait pas transmis à ce moment-là à Tallinn, mais qu'elle ait eu envie, après elle, de dire « je suis encore là et j'ai quelque chose à te raconter ».
Oui, on peut pas toujours transmettre ce qu'on vit. Si on est trop proche du brasier, on a peur de se brûler. Donc le silence a cette vertu de se préserver. Sauf que les générations suivantes ont besoin de connaître l'histoire familiale pour se situer, pour clore un cycle. Et c'est vrai que Louise a rédigé ses carnets tout au long de sa vie. Elle n'a pas pu verbaliser ça. Nona, sa fille, les a eu ses carnets. Elle a été directement victime du manque d'amour de sa mère. Et bien Nona, quand elle est à son tour devenue mère, n'ayant elle-même pas eu de mère, ça a été difficile, cette maternité. Donc c'est vraiment une lignée de femmes qui a du mal avec ses filles, qui a du mal à aimer ses filles. Et c'est aussi une réflexion sur la maternité qui n'est pas innée, contrairement à ce qu'on pourrait parfois entendre. C'est aussi un travail, parfois et même souvent, de devenir mère. Et j'ai aussi voulu rendre hommage à ces mères et ces filles qui n'ont pas toujours pu et qui ne peuvent pas toujours se voir, s'aimer, se comprendre et qui laissent souvent un chagrin inconsolable. Donc là, j'ai aussi voulu à la fois expliquer, réparer et puis parler de ce qu'est constituer sa propre identité. Et pour ça, il faut que les fantômes de nos vies bien soient honorés pour qu'ils nous laissent en paix.
Il y a de bons fantômes, il y a des fantômes qui sont un peu cauchemardesques. D'ailleurs, le livre ouvre sur un cauchemar de Tallinn, et on comprend à la lecture de ce livre pourquoi quelque part on peut faire des cauchemars peut-être même sans savoir pourquoi.
Oui, il y a des terreurs d'enfants qui sont liées à des événements transgénérationnels. C'est très concret, très réel, et on comprend bien que des événements qui ont eu lieu, lorsqu'ils n'ont pas été reconnus comme tels, eh bien, laissent ces fameux fantômes qui passent de vie en vie et qui nous affectent sans qu'on sache parfois les identifier. Et mon héroïne fait des cauchemars. Elle découvrira à un moment donné que le cauchemar récurrent qu'elle fait depuis l'enfance se trouve précisément dans l'un des carnets rédigés par son arrière-grand-mère, parce qu'elle rêve de quelque chose qui a eu lieu, dont elle ne sait rien, mais qui a existé et qui ne s'est pas clôturé. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point nous sommes une chaîne humaine et nous avons besoin, et c'est pour ça que je crois beaucoup à la force des rituels. Ritualiser, c'est acter qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et remettre la mémoire, l'inscrire dans la mémoire du temps pour que un cycle puisse se clôturer et qu'on passe à autre chose, mais en honorant ce qui s'est passé. Quand il n'y a pas eu de possibilité d'expression, ça se fait entendre autrement.
Cette difficulté que va avoir à subir, que vont subir cette famille, ces difficultés, elle pose aussi un questionnement sur l'homme, sur la religion, sur la place, sa place dans le chemin de la vie. Et on sent un moment que Louise, par exemple, dit « je ne peux plus croire en ce Dieu après avoir vécu de telles horreurs ». Et pourtant, elle va se retrouver à nouveau dans un milieu recueilli par des sœurs.
Oui, elle arrive alors qu'elle était en fait dans un milieu très favorisé, dans à Marrage, cette ville dans l'Empire ottoman, avec ce grand-père très bienveillant. Et elle avait un confort de vie et puis elle connaît l'exil. Elle arrive à Alep dans un pensionnat de jeunes filles de bonne famille et elle se retrouve à devoir faire des ménages pour suivre une scolarité qui n'est pas normale puisqu'elle est mise de côté. Elle subit vraiment ce déclassement. et les sœurs sont très dures. Donc il y a vraiment quelque chose de sec. Elles qui aujourd'hui, eh bien, on dirait évidemment, elles sont traumatisées. Il y aurait des traitements, des soins adaptés. À l'époque, ça n'était pas le cas. Et effectivement, confrontées à la violence de ce qu'elle a subi sur les routes de l'exil, elle ne peut plus croire à ce Dieu, alors qu'avant elle ne se posait pas la question parce que Dieu était partout, l'amour était partout et elle vivait avec son cœur, sa sensibilité et ça a été irradié. Donc c'est vraiment comment la suite de sa vie, comment elle va faire poursuivre son existence et donner du sens, et c'est ce que vivent toutes les personnes aujourd'hui qui ont connu des traumatismes ou des grandes blessures. Comment on peut redonner du sens quand plus rien n'en a?
Alors le mot traumatisme, finalement, il est faible, ce mot. Il n'y a pas de mot pour qualifier les horreurs que vous décrivez dans ce livre contre les Arméniens, contre ces enfants en l'occurrence. La question qui se pose aussi, c'est on se dit qu'aujourd'hui, comment ce génocide arménien est encore, je dirais, questionne et n'est pas comme pour la Shoah quelque chose d'évident et de dire voilà, il s'est passé ça et avoir l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu presque à la marge pour certains.
Oui, le génocide arménien, c'est le premier génocide du XXe siècle. Il a sans doute ouvert les portes à la possibilité de la Shoah. Il y a pas d'images nombreuses pour le génocide arménien. Je pense que c'est une manière aussi d'expliquer pourquoi les gens sont assez peu au courant de ce qui s'est passé. Il y a une trentaine de pays quand même qui ont reconnu ce génocide. Joe Biden, le 24 avril, l'a reconnu, il est le premier président américain à le faire.
Vous imaginez, on est en 2021.
Ah, mais c'est pour ça que je pense que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça nous concerne tous, parce que ça parle de ce que des êtres humains peuvent faire subir à d'autres êtres. Et ce qui est grave, c'est que tant qu'un événement de cette ampleur et de cette puissance destructrice n'est pas reconnu, quelque chose peut encore se produire, quelque chose peut se répéter. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de le reconnaître. Et bon, la Turquie, on voit bien Erdogan, il y a vraiment tout un nationalisme, il y a quelque chose qui fait que, alors il y a des voix turques hein, qui s'élèvent quand même pour dire des choses, et heureusement tout peuple porte les ferments d'une autre conscience, mais on est aujourd'hui, en tout cas sur le plan politique, à un endroit qui n'est absolument pas celui de la reconnaissance de ce qui a été fait, bien au contraire, et c'est pour ça que aussi dans ce livre c'est une manière pour moi de redonner une voix aux sans-voix, et ce dont il est question là au travers du génocide arménien, c'est la place qu'on accorde aux vivants. Et encore une fois, quand des êtres ont pu commettre de tels crimes envers d'autres êtres, et bien tant que ça n'est pas dénoncé, ça peut se répéter et ça nous concerne tous, nous et nos enfants.
Alors ce parfum de l'exil, en fait, ce livre est parsemé de parfums. Il y en a de nombreux parfums. Il y a des parfums agréables, bien sûr, le jasmin, il y a les parfums de l'amour aussi, ces parfums du quotidien, et puis il y a aussi les parfums du sang, il y a aussi ces odeurs qui sont insoutenables. Comment vous avez, quand vous avez mis le mot fin, comment vous étiez à ce moment-là, vous, en tant qu'auteur?
Il y a eu plusieurs phases dans l'écriture. J'ai vraiment eu le sentiment d'être accompagnée, je pourrais dire ça comme ça, dans l'écriture des parties vraiment sur le génocide qui était très impliquante, très intense. Voilà. Après, sur les parfums, moi, je suis moi-même dotée d'un odorat très très fin, donc j'ai grandi avec les odeurs. Je crois que j'ai d'abord appris moi aussi à sentir le monde avant de le ressentir. Donc, j'ai souvent soit j'imagine des odeurs, soit je les perçois, et c'est pas toujours agréable évidemment. Mais j'étais dans une très grande sensorialité, je pourrais dire ça comme ça. Oui, j'ai l'impression d'avoir vécu une véritable aventure dans ce livre et d'avoir eu la chance et l'honneur finalement de rencontrer des personnages assez exceptionnels. Donc je suis touchée d'avoir pu être au service de cette histoire.
Quelques mots juste sur Tallinn. À la fin de cette découverte de ces carnets, elle aussi est transformée. Elle aussi prend cette mémoire en pleine figure, hein, d'un seul coup. Est-ce que ça explique aussi, quelque part, pour elle, les difficultés qu'elle a à aimer? Ses relations amoureuses sont un peu particulières, un petit peu rock'n'roll, on pourrait dire.
Oui, Taline n'a pas été aimée par sa mère. Sa mère n'aime pas Taline. Alors, c'est une réalité, il faut le dire. Hein, je le vois bien avec mes patients. Il y a des mères qui n'aiment pas leurs filles. Elles investissent parfois d'autres enfants de la fratrie. Mais elle, en tout cas, sa mère aime son frère et elle ne l'aime pas, elle. Et du coup, elle a beaucoup mis sa grand-mère Nona sur un piédestal parce que Nona l'a élevée. Et voilà, elle souffre du manque d'amour de sa mère. Et au travers de la lecture de ses carnets, elle comprend. Elle comprend que ça n'est pas elle le problème. Elle comprend qu'elle est prise dans une histoire familiale qui la dépasse. Et les choses, du coup, se remettent à leur place. Quand vous comprenez que ça n'est pas vous, ça décharge d'un poids et ça lui permet de se construire, de se découvrir, de remettre aussi à sa juste place cette grand-mère qu'elle avait beaucoup idéalisée et dont elle découvre qu'elle-même n'a pas su aimer sa fille. Donc, d'un seul coup, elle arrive à se situer et à devenir qui elle est vraiment, et en coupant les Oedipes, les illusions, tout en continuant à aimer, la mémoire de sa grand-mère, tout ce qu'elle lui a transmise, mais elle peut devenir elle-même et faire son propre chemin, vivre sa propre vie.
Merci Ondine Kayat. Donc Le Parfum de l'Exil, c'est publié aux éditions Charleston, un livre qui est à la fois un parcours de vie de familial et en même temps un parcours dans le XXe siècle également, à travers ce génocide arménien, une vie. Et puis, je vais terminer par une phrase, je crois que c'est la dernière phrase du livre, qui est de Louise. Les mots vont quelque part, c'est sûr, ainsi la mémoire ne sera pas oubliée. Et là, la mémoire, effectivement, ne sera pas oubliée grâce à vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.